cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Et pour commencer l'émission d'aujourd'hui, Franck Ferrand nous emmène au Kenya à la fin du 19e siècle sur le chantier de construction d'un chemin de fer de l'extrême. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce chantier situé à Tsavo est alors le terrain de chasse d'un couple de lions gigantesques qui, et vous allez voir que le détail a son importance, se nourrit essentiellement de chair humaine.
Oula.
J'avais découvert cette histoire inouïe il y a quelques années dans un ouvrage de Michel Louis intitulé « Terreur dans la brousse ». Un film aussi a été tiré de l'histoire, « La proie et l'ombre » avec Val Kilmer et Michael Douglas.
Et juste après cette histoire, vous recevrez l'un des historiens préférés des Français.
Et oui, Jean-Christian Petit-Fils, en effet, qui vient de faire paraître une histoire décapante de la Bastille. J'ai hâte que vous entendiez tout ce qu'il a à nous dire.
Et enfin, nous terminerons l'heure en royale compagnie, puisque le grand destin de cette semaine est celui de Louis XV en personne.
Et oui, nous allons retrouver le jeune roi devenu majeur, en âge d'être sacré, marié et courtisé. Mais pour le moment, nous sommes attendus au Kenya sur la trace de ces lions mangeurs d'hommes.
Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Il est midi ce 1er mars 1898 quand le bateau à vapeur qui glisse sur une mer d'huile arrive en vue de Mombasa, qui à l'époque est la capitale du Kenya. Mombasa, autrefois fortifié par les Portugais, se trouve sur une île. Il faut imaginer un panorama splendide. Les demeures toutes blanches de la vieille cité se mêlent aux cocotiers, aux manguiers, aux baobabs énormes, tandis qu'en arrière-plan se déploient les côtes du continent, pleines de des côtes arborées, vous savez, très belles. En descendant du steamer, John Henry Patterson, il est sergent-major dans l'armée britannique, Patterson a du mal à contenir sa joie. Il a 31 ans et il s'est vu confier enfin une mission qu'il estime à sa mesure, la construction au Kenya, sur la rivière Tsavo, d'un pont ferroviaire, un élément crucial de ce fameux chemin de fer de l'Ouganda sur lequel le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté entend s'appuyer pour asseoir sa présence en Afrique orientale. Le jeune Patterson, qui donc est un ingénieur militaire, a quitté l'Angleterre avec enthousiasme, même s'il a dû laisser là-bas sa jeune épouse, Helena, enceinte de 3 mois. Il voue depuis l'enfance une véritable passion à l'Afrique, à ses paysages, à sa faune qu'il connaît par les livres. Patterson a dévoré les récits des grands explorateurs, de Speke, de Livingstone, et depuis le petit train qui, quelques jours après son arrivée, le transporte vers Tsavo, ses yeux ne sont pas assez grands pour admirer les zèbres nerveux, les girafes, les gazelles qui filent là parmi les broussailles. Enfin, à 130 km environ dans les terres, Patterson découvre la gare de Tsavo avec son quai de planches et au-delà, la fourmilière immense et poussiéreuse du chantier. Le camp aussi où s'entassent les baraquements de fortune et les tentes. Tsavo, dans le dialecte de la tribu Akamba, cela signifie la tuerie.
Mauvais présage.
Le lieu où l'on massacre.
Ça donne le ton.
Patterson le sait, mais il ne peut pas deviner à quel point cette appellation va se révéler prémonitoire. Le lieu a mauvaise réputation parmi les autochtones. Il serait, dit-on, hanté par le démon. On sait que c'est à cet endroit que depuis des siècles, les marchands d'esclaves ont abandonné les hommes malades ou trop faibles pour continuer. Une habitude que les lions de la région ont remarquée sans aucun doute et dont ils se sont accoutumés à tirer profit. En 1898, ces lions sont devenus mangeurs d'hommes et d'autant plus que quelques années plus tôt, une épidémie de peste bovine a décimé les troupeaux d'herbivores qui étaient le garde-manger habituel des fauves. L'installation d'un immense chantier ferroviaire, évidemment, n'a pas arrangé la situation. Pour le moment, notre ingénieur prend le pouls du chantier, il fait le point, il réorganise les équipes, il remet de l'ordre dans les missions. C'est le 23 mars seulement que, de façon incidente, un chef d'équipe l'informe que, l'avant-veille, un ouvrier indien affecté au forage du tunnel a disparu. Comme avaient déjà disparu la veille 2 ouvriers noirs des Swahili. Or, explique le chef d'équipe, la rumeur attribue ces disparitions à des lions. Patterson hausse les épaules, croyant plutôt à des désertions spontanées, mais son serviteur indien le détrompe. « C'est vrai, Sahib, lui dit-il. Il y a un mangeur d'hommes à Tsavo, et beaucoup d'hommes vont mourir. » À l'aube du 30, le sergent-major Patterson est réveillé en sursaut. Une dizaine d'ouvriers, ils sont là, ils tremblent de tous leurs membres, viennent l'avertir que le contremaître indien a été saisi dans sa tente par un lion, tiré par le fauve au dehors et emporté pour être dévoré. Alors aussitôt, on se met en quête des restes du malheureux contremaître et pas très loin du camp, derrière un bosquet, tout un attroupement d'oiseaux charognards le désigne. Le sol est jonché de sang, de lambeaux, de chair et d'ossements humains. La tête intacte sera retrouvée à quelques mètres, les yeux grands ouverts, figés dans une expression de terreur. Mais au-delà de ce tableau d'horreur, ce qui frappe Patterson, c'est la présence au sol de nombreuses traces assez profondes. Il y a bien là deux séries d'empreintes, et l'ingénieur ne met pas longtemps à comprendre. On parle d'un lion, mais en fait ce n'est pas un lion, ce sont deux lions. « Je les attends, pense-t-il, car ils vont revenir. » Le soir même, Patterson est en embuscade sur un arbre, armé de sa carabine 303 et d'un pistolet à 12 coups. Il est rejoint par les compagnons du défunt contremaître qui l'ont supplié de les laisser monter dans l'arbre avec lui. Ils sont complètement traumatisés, vous imaginez. Et voilà que commence donc une très longue veille au cours de laquelle Patterson pourrait jurer avoir aperçu dans l'ombre l'espace d'un éclair, un œil de fauve qui le fixait. On entend des cris au loin, on tend l'oreille, et ce sont des cris d'épouvante. Ça vient d'un petit camp isolé, à 1 kilomètre environ de la rivière. À l'aube, on apprendra que là-bas, un lion a déchiré une tente d'un coup de griffe et il a saisi un ouvrier dans son sommeil et l'a emporté, toujours pour le dévorer. On imagine l'ambiance au petit matin sur le chantier. Cette fois, ce ne sont plus des rumeurs qui courent parmi les hommes. C'est une inquiétude réelle qui commence à se manifester. Ce sera bientôt la peur. Une peur qui, pour des mois, s'empare maintenant de Tsavo. Alors pendant des semaines, le sergent-major Patterson ne va cesser de traquer les deux lions. Chaque soir, après sa journée de travail, il se met à l'affût quelque part et il guette et il attend de longues heures la venue des fauves. Seulement, évidemment, on ne les attend jamais là où ils sont. Le nombre des victimes va continuer de s'accroître. 10 morts, 12, 16, 18. Là, ce n'est plus de la peur, hein, c'est de l'effroi, bien entendu, maintenant, partout sur le chantier. Presque chaque nuit, les lions de Tsavo viennent chercher leur tribu de sang, de chair, d'os, des os qu'ils font craquer à plaisir pendant très longtemps, dans la nuit, parfois tout près des tentes.
.fr. Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Et cet après-midi, nous sommes au Kenya. Alors Franck Ferrand, vous nous racontez cette histoire incroyable, cette histoire terrible de ces lions mangeurs d'hommes à Tsavo. Mais on a très peu parlé de ce qu'était venu faire le sergent-major Patterson. Il était venu construire un chemin de fer.
Oui, en fait,
c'était important.
Il construit un pont sur la rivière Tsavo pour faire passer ce grand chemin de fer essentiel qu'on appelle le chemin de fer de l'Ouganda, qui aux yeux des Britanniques à l'époque est tout à fait stratégique parce qu'il s'agit d'abord de relier deux colonies britanniques et puis il s'agit aussi d'affirmer la présence du premier empire colonial de la planète face à des Allemands qui s'installent en Afrique australe et orientale à l'époque et qui sont donc de plus en plus présents. Donc il y a là tout un jeu politique. Ce chemin de fer est absolument vital, il a une importance politique et on comprend que ce ne sont pas quelques lions qui vont évidemment faire reculer la puissance britannique, même si les ouvriers sont très inquiets, hein. Certains rechignent, il y en a qui songent à la grève, etc. Patterson doit les haranguer. « Ces lions, je les tuerai, dit-il, je vous le promets. Mais en attendant, nous allons construire ensemble autour de chaque camp une barrière d'épines infranchissable avec une seule ouverture qui sera fermée à la tombée de la nuit par le chef de camp. » En fait, c'est une sorte de haie utilisée par les autochtones pour protéger les villages. On appelle ça les bomas.
Des barbelés naturels.
Si vous voulez. C'est un peu ça d'ailleurs, exactement. Ce qui prouve, entre parenthèses, que les attaques de lions n'ont pas attendu l'arrivée des Occidentaux, bien entendu. Alors, on se met au travail, les fortifications des camps par ces barrières de ronces se remotivent les hommes d'une certaine manière, et le soir même, chaque campement est bien entouré de son infranchissable haie d'épines, de ses barbelés naturels, comme vous dites, Anissa. Quand je dis infranchissable, façon de parler, parce que trois nuits plus tard, dans la nuit du 21 au 22 avril, le médecin auxiliaire au beau milieu du camp médical est réveillé en sursaut. À peine ouvre-t-il l'accès à sa tente qu'un énorme lion bondit à l'intérieur, renverse une armoire médicinale dont le contenu se brise au sol. Le fauve est un peu effrayé par le bruit qu'il a lui-même créé. Il quitte les lieux pour se diriger finalement vers un autre endroit du camp, tandis que le médecin auxiliaire est là figé, plus mort que vif, vous imaginez. Le fauve commence à gratter les contours d'une tente où dorment 8 patients. Il laboure la toile de ses griffes. Vous imaginez là encore le chaos où se mêlent les cris des malades, les grognements rauques de la bête qui finit par s'échapper en tirant un homme à travers la barrière d'épines. Ce qui veut dire que la boma s'est révélée perméable. Le lion l'a traversée dans les deux sens, presque comme si elle n'existait pas. Et là, Patterson se sent quand même un peu découragé. Ce n'est pas le moment pour autant de céder à l'abattement. Il redouble d'efforts et de volonté. Il lui faut au plus vite mettre ces deux fauves hors d'état de nuire. Le nombre de victimes croît dans des proportions folles, 19, 24, 27. Après quoi, bizarrement, pendant deux mois entiers, les lions se font oublier. Ils paraissent avoir quitté le secteur de Tsavo. Ils se sont mis à chasser l'homme beaucoup plus au nord, du côté des camps avancés de la tête de la ligne, où la famille d'un autre ingénieur du reste est massacrée. Je ne vais pas vous raconter toutes les histoires. Alors c'est affreux bien sûr, mais en même temps, la nature humaine étant ce qu'elle est, on aurait tendance à souffler du côté de Tsavo. Les semaines passent, on finit par penser de moins en moins souvent à cette menace nocturne. On n'y pense presque plus jusqu'au 10 août. Et le soir du 10 août 1898, la terreur ressurgit au cœur de la brousse. Un grand feu illumine les tentes et derrière l'épaisse boma hérissée de piquants, certains hommes ont pris l'habitude de coucher à la belle étoile pour profiter de la relative fraîcheur nocturne. Tout à coup, le veilleur distingue une imposante silhouette qui remue dans la haie d'épineux. « Simba » hurle-t-il. « Simba », Simba, ça veut dire le lion dans le dialecte local. Trop tard, le fauve est déjà au centre du campement. C'est un lion immense à l'œil torve, dont la crinière d'ailleurs est quasiment inexistante. Les plus courageux des hommes lui jettent des pierres, des torches, ce qui n'a pour effet que de l'exciter un peu plus. Le fauve trotte un instant au milieu des ouvriers affolés et puis il se jette sur un pauvre homme, un Swahili, qu'il ne tarde pas à emporter pour le ramener à son congénère de l'autre côté de la boma. La nouvelle est pénible, mais il va falloir l'admettre, les lions mangeurs d'hommes sont de retour. Et de nouveau, des grognements rauques vont hanter les nuits de ceux qui se sentent si vulnérables, perdus comme ça dans la brousse, sous leur tente de toile. Bilan inouï, une cinquantaine de victimes a déjà été dévorée et parmi les ouvriers, la révolte gronde maintenant. Patterson va devoir faire face à une véritable bronca, une mutinerie. Le 14 octobre, à la tombée de la nuit, les grands prédateurs attaquent la gare de Tsavo. Ils terrassent un Swahili, s'en emparent et au lieu d'aller le dévorer dans la brousse comme d'habitude, ils viennent faire leur affreux festin là, tout près du camp de Patterson, qui en est réduit à se laisser narguer par les fauves, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est ce dont il s'agit. C'est bientôt l'escalade dans l'horreur. Quelques jours plus tard, ce sont les lions qui parviennent à entrer tous les deux dans un camp où ils attaquent avec frénésie une tente abritant 6 hommes. C'est une vraie tuerie. Un ouvrier a le torse déchiré, un autre le visage à moitié arraché, tandis qu'un des lions brise la nuque d'un troisième. Patterson multiplie à partir de là les veilles, les traques, c'est devenu l'essentiel de son activité. Un grand et célèbre chasseur de fauves vient à ce moment-là lui proposer son aide. On va le retrouver, ce pauvre homme, plutôt on ne retrouvera que quelques morceaux de vêtements maculés de sang au bout de quelques jours. Et c'est l'armée qui finit par intervenir. On dispose des tireurs dans une grande cage à 2 compartiments, un piège dont les tireurs sont eux-mêmes les appâts. Seulement, au beau milieu de la nuit, quand un des lions finit par pénétrer dans la cage, les soldats sont tellement terrifiés qu'ils perdent leurs moyens et ils laissent l'animal s'échapper. Au milieu de l'automne, les deux fauves ont fait largement plus de 100 victimes. Il n'est plus possible de retenir les ouvriers à Tsavo, et d'autant moins que la plupart sont convaincus plus que jamais du caractère surnaturel des deux prédateurs. Ce ne sont pas des lions, ce sont des démons qui prennent la forme de lions. Et ils portent un nom ici, on les appelle fantômes et ténèbres.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Europe 1,
au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et grâce à vous, cet après-midi, Franck Ferrand, nous sommes donc au Kenya, à la fin du 19e siècle, avec John Henry Patterson, cet homme qui est chargé de construire ce pont ferroviaire qui enjambe la rivière Tsavo. Mais les ouvriers meurent à tour de rôle, attaqués par ces lions. Oui, il y a plus de 100 personnes qui ont trouvé
la
mort.
Et donc, il n'y a plus d'ouvriers sur le camp. Hein, et Patterson n'a pas dit son dernier mot. Il est resté avec quelques fidèles dans un camp beaucoup plus resserré. Il s'est fait construire une plateforme de veille à 3,50 m. Le 9 décembre 1898, il s'y installe vers 18h, la nuit tombe, et, comme on l'attendait depuis plusieurs nuits, un lion finit par approcher. En entendant cette espèce de grognement rauque tellement caractéristique, Patterson a juste le temps de se retourner pour deviner le fauve prêt à bondir sur lui. Il tire à seulement 5 mètres et là il voit son cou terrasser le lion en plein élan. La détonation se mêle au rugissement. Chance, vraiment chance. C'est un coup de maître, à moins qu'il s'agisse d'un réflexe désespéré. Bref, le gros prédateur est mort. L'un des deux monstres n'est plus. Le brave Patterson a donc tenu parole, il a eu raison du premier des deux lions de Tsavo. Il a vengé ses ouvriers, ses amis victimes de l'animal, mais il y avait donc deux lions et Patterson est bien décidé à aller jusqu'au bout. Or, après la mort du premier le 9 décembre 98, le deuxième lion va parvenir encore à forcer la boma dans la nuit du 28 décembre et à emporter un âne. Patterson le poursuit dans la brousse, l'animal est finalement blessé, mais il contre-attaque. Le Britannique ne devra son salut qu'à un arbre providentiel dans lequel il va grimper avec son porteur tandis que le lion est là qui tente de les déloger. C'est pas rien, un coup de patte d'un lion géant. 5 balles seront nécessaires pour achever l'animal. Les deux fauves finiront donc en descente de lit, si je puis dire, avant que Patterson ne confie leur dépouille au président américain Theodore Roosevelt, qui, vous le savez, était un grand chasseur, qui avait fait beaucoup de safaris, etc. Et Roosevelt, à son tour, fera don des peaux des animaux au Field Museum d'Histoire Naturelle de Chicago, ce qui fait que les lions ont pu être reconstitués, que vous pouvez les voir aujourd'hui encore, où ils constituent évidemment l'un des clous de la visite. Ils sont au centre d'un grand diorama africain.
Parce que dans Au cœur de l'histoire, histoire est au pluriel, on quitte le Kenya pour revenir en France et on va s'intéresser à la Bastille avec votre invité. Franck Ferrand, vous recevez Jean-Christian Petit-Fils, historien spécialiste de l'Ancien Régime que nos auditeurs connaissent très bien et auteur de La Bastille, mystère et secret d'une prison d'État, paru aux éditions Talendier.
Vous aurez remarqué le clin d'œil, cher Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour, merci d'être avec
Bonjour,
nous.
Franck Ferrand.
C'était pendant très longtemps le générique de la tribune de l'histoire, ce Fraschutz de Weber.
Participé. Et puis je l'écoutais très régulièrement.
C'était le samedi après-midi André Castelot, Alain Decaux, Jean-François Quiappe, etc. Alors, Jean-Christian Petit-Fils, vous avez rédigé une sorte de biographie en vérité. C'est l'histoire vivante d'un monument que vous nous proposez, avec pas mal de surprises à la clé. La Bastille, tous les Français pensent la connaître. Et en vérité, vous nous montrez qu'elle est tout autre chose que ce qu'on imaginait.
Une biographie, vous avez tout à fait raison. Avec, faut dire, beaucoup de morts vivants à l'intérieur aussi, c'est certain.
Il y a quelques spectres et quelques fantômes. Voilà. Il y en a un avec lequel nous allons tout de suite en finir, si je puis dire, parce que d'ailleurs vous lui aviez consacré un ouvrage entier, c'est le Masque de Fer, grand pensionnaire de la Bastille. Vous nous dites, vous, qu'il n'y a plus vraiment de mystère sur l'identité de ce Masque de Fer.
Non, hein. le personnage est identifié, on connaît son nom, on connaît son parcours, puisqu'il est resté 34 ans en prison, pas seulement à la Bastille. Il est resté seulement 5 ans à la Bastille et il meurt en 1703 sous un nom d'emprunt, comme tous les prisonniers d'État à cette époque, un certain Marcioli. Et son nom véritable, c'est un certain Eustache d'Angers, un valet de Fouquet qui connaissait des secrets importants. Et là, on tâtonne un peu, mais on a une idée quand même de ces secrets.
Alors, cette Bastille était une prison d'État, bien entendu, ça tout le monde le sait. Mais ce que nous allons voir avec vous dans un instant, c'est qu'elle n'a pas toujours été une prison.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Une forteresse, un château, une prison, nous sommes au cœur de l'histoire de la Bastille cet après-midi sur Europe 1, avec votre invité Franck Ferrand, Jean-Christian Petit-Fils, historien et spécialiste de l'Ancien Régime.
Cette Bastille, elle date du XIVe siècle, c'est une des constructions du règne de Charles V en fait. Et vous nous dites, Jean-Christian Petit-Fils, que pour se faire une idée de son architecture, le mieux c'est encore d'aller jusqu'à Vincennes.
Oui, le château de Vincennes, le donjon de Vincennes, bien sûr, est assez typique. Il faudrait le multiplier par 3 parce que, évidemment...
Je me rappelle d'ailleurs un colloque qui avait eu lieu, qui avait été organisé par M. Chapelot à Vincennes, avec Jean Favier, qui à l'époque était évidemment le patron des Archives de France. Et Jean Favier expliquait que la Bastille faisait partie des défenses de Paris et qu'elle était tournée non pas contre l'extérieur... puisqu'on ne craignait pas vraiment d'adversaires au sud-est de Paris, mais contre l'intérieur pour pouvoir tirer sur les faubourgs et protéger une fuite du roi, nous disait-il.
Alors c'est une porte au départ.
C'est ça.
C'est la porte Saint-Antoine, tout simplement. Une bastide, c'est une porte. Et puis, on met deux grosses tours pour permettre de protéger cette...
Deux, puis quatre, six, huit.
Alors voilà, à partir de 1356, 1358, on construit ces deux tours. Ensuite, on va en mettre quatre. C'est Hugues Aubriot, le prévôt des marchands, qui va mettre... les premières fondations de ce vrai château fort qui aura 8 tours. Et là, c'est vraiment absolument impressionnant. C'est un château qui domine le faubourg Saint-Antoine et qui aussi inquiète beaucoup.
Et à partir de quand est-ce qu'on se met à enfermer des gens dans la Bastille?
Alors, on n'a pas de date précise parce qu'il y a eu de temps en temps quelques personnes qui étaient là. Il y a eu Louis XI, bien sûr, avec les fameuses fillettes, les cages de fer. On en a construit une sous Louis XI. Et puis, il y a eu... c'est surtout Richelieu, à l'époque de Richelieu, véritablement, donc de Louis XIII, que la Bastille devient une prison d'État. Prison d'État où on met des personnages importants. Des conspirateurs, des ennemis du roi, des gens aussi qui sont disgraciés, qui sont mal en cours, et on les envoie. La Bastille, c'est l'inverse du Louvre, et ça sera l'inverse de Versailles.
Oui, c'est l'anti-Louvre, d'une certaine manière.
Voilà. Et c'est très révélateur, en fait, aussi, de la société d'Ancien Régime. C'est ça qui est intéressant.
Alors,
c'est le miroir inversé de cette société.
Ce que vous nous expliquez, c'est que les pensionnaires, si je puis dire, comme on les appelés avec une certaine ironie de la Bastille, sont bien souvent des personnes incarcérées à la demande même des familles. C'est toute la question des lettres de cachet, ça, bien sûr.
Voilà, alors la lettre de cachet, vaste sujet, la lettre de cachet, c'est un ordre royal, signé donc du roi ou d'un secrétaire de la main. D'ailleurs, quelqu'un qui imite parfaitement...
Une des 4 ou 5 personnes autorisées à signer.
Toussaint Rose, sous Louis XIV, avait la réputation d'imiter à la perfection la signature du roi, de sorte que ceux qui aujourd'hui ont des lettres de Louis XIV, c'est pas du tout certain que ce soit le roi lui-même qui les ait signées. Et puis, il faut un contre-sein d'un secrétaire d'État. Et à partir de là, monsieur de Bémeaux, monsieur de Saint-Marc, donc c'est le gouverneur, je vous prie de bien vouloir recevoir dans mon château de la Bastille, le nommer un tel, et c'est en blanc, parce qu'on fait des formules toutes faites, de le recevoir jusqu'à un nouvel ordre. Et sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde, cachet du roi. Et cette lettre de cachet, elle permet... En tout cas, elle permettait au départ à des individus de grandes familles d'échapper à la justice, à la rigueur de la justice des parlements ou du Châtelet.
D'une certaine façon, on protégeait les familles et on mettait hors circuit les personnes qui étaient considérées comme...
C'est tout à fait injuste et contraire à notre principe d'égalité. Mais c'était dans un sens pour améliorer la situation, pour permettre... Et puis les choses se sont dégradées, évidemment, il faut bien le dire. C'est que à partir du 17e et surtout au 18e, c'est un instrument à la disposition des ministres qui vont enfermer leurs ennemis.
On comprend que ça devienne un symbole de l'arbitraire royal, évidemment.
Absolument.
Est-ce que ce symbole se trouve être concrètement horrible? C'est-à-dire que nous avons l'image de ce bâtiment médiéval gigantesque dont l'ombre couvrait littéralement le faubourg Saint-Antoine. C'est ce bâtiment gigantesque plein de cachots, sombre, avec de grosses portes et des chaînes, etc. Est-ce que ça ressemblait à ça à l'intérieur de la Bastille, en fait?
Alors, ce qui est toujours frappant quand on étudie l'Ancien Régime, c'est de voir la diversité des situations. On a parlé de la Bastille comme d'une prison 4 étoiles.
Donc, il y avait les premières classes, deuxième classe,
voilà,
etc.
Exactement. la haute noblesse, les grands seigneurs étaient installés dans un bâtiment central qui n'avait rien à voir avec ses cachots. Ils avaient disposaient d'un appartement, de domestiques. Ils étaient extrêmement bien soignés, nourris de façon extraordinaire. On a des descriptions de menus de la Bastille. On a même des anecdotes de Marmontel qui reçoit des quantités de plats, qui le partage avec son valet, et puis après avoir partagé ce repas, il s'aperçoit que c'est à nouveau le geôlier entre dans la cellule et apporte des pyramides de plats encore, car c'était le repas du valet, du domestique qu'ils avaient commencé à partager. Donc on les soigne très bien, et on s'occupe d'eux, ils peuvent sortir dans la cour, et puis à côté de ça, il y a bien sûr des drames, des cachots qui sont envahis d'eau au moment des grandes inondations, 1 mètre, 1,50 mètres. Il faut tirer les malheureux de ces cachots. Il y a des rats, c'est quelque chose.
Certains détenus ont laissé un nom très célèbre. Je pense au jeune duc de Fronsac, qui plus tard deviendra le duc de Richelieu. Évidemment à Voltaire, qui a fait quelques petits séjours tout de même.
Bien sûr. Marmontel, Voltaire.
Et puis le marquis de Sade, qui était encore au moment de la Révolution.
Oui, c'est ça. Alors il est parti quelques jours avant le 14 juillet, sinon il aurait été libéré au 14 juillet. On l'a emmené à Charente.
Alors, ça, c'est la grande question, ce 14 juillet. C'est sans doute la date que connaissent le mieux les Français. 14 juillet 1789, prise de la Bastille. Sauf qu'en fait, d'abord, disons les choses, il n'y avait plus tellement de prisonniers dans la Bastille à l'époque, le 14 juillet. Il y en avait sept en tout.
Quatre faussaires, un personnage sadique qu'on avait mis à l'écart probablement pour crime d'inceste. Voilà, vraiment des tout petits personnages sans grande importance. La Bastille avait perdu tout son intérêt. Louis XVI avait songé à la détruire. Il y a eu plusieurs projets de destruction de la Bastille. On va la remplacer par une grande place. Il faut aménager l'est de Paris. Ça sert très bien. Et donc. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet? Les insurgés vont chercher des fusils, des canons aux Invalides.
Des munitions.
Et il manque de la poudre. Mm-hmm. Et on sait que la poudre est entassée à la Bastille. Donc il ne s'agit pas du tout à ce moment-là de détruire le symbole du despotisme.
Il n'y a pas une volonté politique au départ.
Au départ, non. Il y a une volonté de s'emparer de la poudre. Et donc, à combien d'assaillants? On ne sait pas trop. 800, 900, il y aura à peu près 950 membres vainqueurs de la Bastille, parce qu'on va créer une sorte de décoration, d'ordre, avec un costume. Mais est-ce que vraiment tous ont participé à la prise de la Bastille? C'est pas évident. Et puis tous ceux qui étaient des individus louches, qui ont attaqué, qui ont tué Flesselles, le prévôt des marchands, qui ont tué le gouverneur de Launay, ils se sont pas précipités pour avoir ces honneurs-là.
Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est que tout de suite, c'est-à-dire le jour même du 14 juillet, on prend conscience, dans le faubourg Saint-Antoine et bien au-delà, on prend conscience du symbole et de l'importance de la chose. La Bastille va être mythifiée en quelque sorte. On va même faire des petites Bastilles avec les pierres.
Ça, c'est le patriote palois, un entrepreneur qui arrive le soir même avec quelques centaines d'ouvriers qu'il a, des chômeurs en fait, qu'il emploie. Et il commence à attaquer en haut des tours, on détruit la Bastille avant même d'avoir reçu le moindre ordre. Et il a fallu donc la municipalité confirme cette destruction. destruction, et on va fabriquer des gadgets, des
Et en même temps, du côté du pouvoir, on comprend que ça sent vraiment le roussi. C'est le 15 juillet qu'un grand nombre des hauts personnages de la cour, à commencer par le comte d'Artois, le plus jeune frère du roi, vont quitter le royaume. C'est le début de l'exil massif. Louis XVI va lui-même faire le voyage jusqu'à l'hôtel 17, de ville à Paris, etc. Bras, oui. Donc quand même, cette prise de la Bastille a été d'emblée considérée comme un événement politique majeur.
Après, oui, après la chute de la Bastille, absolument, et bien entendu, et c'est un événement capital, c'est tout le symbole aussi de l'arbitraire, de l'ancien régime, de la
justice.
Et
avec les pierres de la Bastille, on fera le pont de la Concorde qui aujourd'hui conduit à l'Assemblée nationale, c'est quand même assez extraordinaire. La Bastille, mystère et secret d'une prison d'État, et Dieu sait qu'il y en a des mystères et des secrets dans cette histoire-là, c'est le nouvel ouvrage de Jean-Christian Petit-Fils aux éditions Talendier.
L'heure de découvrir la suite de notre feuilleton de la semaine, le grand destin consacré à Louis XV, dit le bien-aimé, en âge de devenir roi.
Vous allez voir pourquoi il est le bien-aimé. Je vous ai montré hier ce tout petit garçon qui se retrouve roi, vous imaginez, dans quelles circonstances. Très seul, hein, vous avez vu à quel point plus de père, plus de mère, quasiment pas de famille. Et bon. Or, le 31 juillet 1721, ce jeune roi, il a 11 ans révolu maintenant, il se trouve à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois pour la fête de la paroisse. Il ne vient pas de très loin puisqu'il réside aux Tuileries, hein, donc il n'a pas eu beaucoup de chemin à faire. C'est un jour de canicule, ce 31 juillet, la foule est considérable. Disons les choses, la fête a été très mal organisée. Bref, le royal adolescent est bousculé, il se trouve mal et le soir, la fièvre se déclare. Elle devient forte le 1er août, alors ça y est, les médecins arrivent. À bride abattue, si je puis dire, saignée, ressaignée. Pourtant, Madame de Ventadour, qui avait sauvé le petit dauphin, est là, toujours, qui veille. Le troisième jour, on le fait vomir, on le purge plusieurs fois. On peut dire que la médecine de l'époque avait vraiment de quoi vous tuer. À Paris, dans tout le royaume, c'est l'émoi. On a sorti la chasse de Sainte-Geneviève, on a ordonné les prières publiques avec exposition du Saint-Sacrement, et miracle, dès le 4 août, le jeune roi va mieux. Il est même sauvé. Et à ce moment-là, c'est une explosion de joie indicible dont les chroniqueurs du temps, Barbier, hein, bien sûr, le journal d'un bourgeois de Paris, vous savez, Barbier, Buvat, etc., les chroniqueurs se font l'écho de cette joie. On s'embrasse dans les rues, on chante, on danse, on hurle, vive le roi, sans casser la voix. Te Deum, députation, réjouissance publique pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. De mémoire de français, on n'avait jamais connu pareille allégresse, nous dit un témoin. Le 11 août, à 4h de l'après-midi, entre aux Tuileries une troupe de 25 garçons, des apprentis tailleurs et perruquiers, en chemise de fine toile de Hollande, culottes blanches, bas et gants blancs, plumets, écharpes, rubans bleus, avec une douzaine de grelots à chaque jambe, l'un monté sur un faux cheval à housse d'or, et ils viennent là pour danser devant le jeune roi guéri, pour manifester leur joie, tout simplement. Que nous apprennent ces réjouissances extraordinaires? Eh bien, que ce jeune souverain, si beau, si pur, est devenu l'idole de ses peuples, comme on disait à l'époque. La popularité de Louis XV est immense, elle est sans précédent. On peut dire que c'est à partir de là que le roi devient le bien-aimé du peuple français. Et vous savez que le bien-aimé, c'est le nom qu'il gardera dans l'histoire.
Au cœur de l'histoire.
Sur Europe 1. Europe 1.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et cet après-midi, le feuilleton est consacré, bien sûr, et comme toute la semaine, à Louis XV, qui est devenu l'idole de ses peuples. Vous nous le disiez il y a un instant, il est devenu le bien-aimé et il va découvrir le jeune roi Versailles.
Et oui, il est tout jeune, hein, il a 12 ans, en juin 1722, lorsqu'on le ramène à Versailles, où il a vécu les toutes premières années de sa vie. Il en a plein de souvenirs, bien entendu, il est très heureux. Il faut imaginer ce petit roi qui court partout. C'est un gamin, hein, il a 12 ans, alors on n'arrive pas à le tenir. Il veut aller voir la chapelle d'abord, qui a été la dernière grande réalisation du règne de Louis XIV, la chapelle de Robert de Cotte, hein, sur des plans de Ardoin Mansart. Et puis, il va aller se promener partout dans les jardins, on le voit courir jusqu'au Grand Canal. Et puis, il revient, il monte jusqu'à la Galerie des Glaces, ce que nous appelons, nous, la Galerie des Glaces, on appelait ça la Grande Galerie à l'époque. Et comme il n'y a plus de meubles dans Versailles depuis un certain temps, ça fait 7 ans que la cour n'est plus là, 5 ans en tout cas, il décide à ce moment-là de s'asseoir par terre. Et le régent et le reste de la cour qui le suivait péniblement, poussivement si je puis dire, va en faire autant. J'aurais bien aimé voir ce tableau de tout le monde assis par terre dans cette Galerie des Glaces et le petit roi tout heureux. C'était une grave erreur politique, nous dit pourtant François Bluche dans sa biographie de Louis XV chez Perrin. Grave erreur politique, mais personne n'en avait conscience. Louis XV, suivant son sentiment, ne se souciait pas des contraintes de la raison. Versailles avait été le cadre merveilleux de son enfance. D'ailleurs, si le régent détestait un château qui lui rappelait les admonestations du feu roi, Louis XV savait que son bisaïeul eût désiré de le voir élevé à Versailles comme le lieu le plus propre, le plus commode et le plus magnifique que l'on pût souhaiter. Sic, nous dit Bluche à propos de commode, parce que c'est vrai que l'endroit est peut-être pas si commode que ça. Or, le jeune souverain veut imiter son prédécesseur, dit-il. Il ne fait donc 7 mois avant sa majorité que réaliser un souhait de Louis XIV. Au reste, en ce cadre connu et que l'Europe admire, il pense gagner en prestige, en liberté et en autorité. Le roi de Versailles est d'une autre stature que celui des Tuileries. C'est peut-être ça le secret, évidemment. Sauf que le manteau est un peu grand, si je puis dire. Alors, ce que François Bluche ne précise pas, c'est que le roi était venu à Versailles pour y préparer sa première communion, qui va donc avoir lieu au mois d'août. Et aussitôt dépassé la première communion, le régent décide d'écarter ce pauvre Villeroy, vous savez, ce duc de Villeroy qui est là toujours à côté du petit Louis XV et qui est un personnage complètement imbu de sa personne, dont on pense que l'influence sur le jeune roi n'est pas bonne. Le régent en a assez des opportunité de ce personnage et il va le faire arrêter et exiler. Sauf que Villeroy, depuis des années, n'a eu de cesse de dire à l'oreille du roi que il était l'homme qui représentait sa, qui assurait sa sécurité. Que si lui-même n'était plus là, alors tout serait à craindre. Et on va voir le jeune Louis XV complètement affolé à l'occasion de cette arrestation. Il a les yeux rouges pendant plusieurs jours, il refuse de parler, il ne salue même plus le régent. C'est un moment, c'est un véritable, on peut dire que c'est un traumatisme pour lui. On n'en est pas moins en train de préparer son sacre. Alors, le sacre était fixé à septembre, seulement les vignerons se sont dit que si toute la cour et toutes les armées, etc. se rendaient à Reims avant que les vendanges ne soient faites, ça allait être une catastrophe. Alors on demande si, par respect pour le raisin, on ne pourrait pas retarder un petit peu le sacre. Et ce sacre, il est donc reporté au 25 octobre 1722. La cathédrale, écrit Pierre Gaxotte, avait reçu une ornementation magnifique. Les plus belles tapisseries de la couronne tendues jusqu'à la voûte, l'autel couvert d'une nappe de drap d'argent galonné d'or, 2 dais de velours violet brodés de fleurs de lys. On prétend qu'il y avait 8 000 aunes, c'est-à-dire environ 10 kilomètres, de tapisseries tendues. Sur les autels, des châsses d'or garnies des diamants, contenant les reliques les plus précieuses, comme le chef, c'est-à-dire la tête de Saint-Louis. 6 cardinaux, 5 archevêques, 20 évêques prennent place parmi les premiers, tandis que s'assied les maréchaux d'Étré, de Tessé et d'Uccelles qui devaient porter dans la cérémonie la couronne, le sceptre et la main de justice.
De la messe du couronnement de Mozart sur Europe 1. Restez avec nous, la suite du feuilleton consacré à Louis XV, épisode 2, dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Suite de ce grand destin cette semaine consacrée à Louis XV, nous sommes donc le 25 octobre 1722. Le roi vient d'être sacré et couronné à Reims.
Et oui, alors il n'est pas pour autant majeur. Vous savez que les rois de France étaient majeurs le jour de leurs 13 ans, pour leur 14e année, comme on disait à l'époque. Donc, il faut attendre le 15 février 1723. Et dès le 16 février, il y a cette... Vous savez, les choses de la cour sont toujours très subtiles. Et il y a cette, ce petit signe tout à fait magnifique pour les gens avertis. Le soir, le chef de l'État donne toujours l'ordre. Ce qu'on appelle l'ordre, c'est un mot. Alors généralement, c'est un mot qui passe par la tête du roi, hein, n'importe quel
mot.
Ça
peut être n'importe
quel. Ça peut être vraiment n'importe quel mot. Et ce mot, le roi le dit à l'oreille du capitaine des gardes, et ce sera le mot qui permettra ensuite, qui va être transmis, et qui permettra de c'est le mot de passe, hein, qui permettra d'entrer dans les châteaux royaux pendant toute la nuit. Eh bien, jusqu'ici, c'était le régent qui donnait le mot. Et le soir du 16 février, on voit le régent s'écarter et c'est le petit roi qui vient dire le mot, qui vient donner l'ordre, comme on dit, à l'oreille du capitaine des gardes. Et ça y est, le roi est majeur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de régence. La régence va s'achever. Il faut nommer maintenant un premier ministre, se dit-on. Alors le régent, celui qui a assuré la régence, Philippe d'Orléans, qui, entre parenthèses, a été d'une parfaite correction et loyauté dans cette affaire. Le régent propose son camarade de débauche, mais qui n'en est pas moins un grand homme d'État, le cardinal Dubois, dont nous avons eu l'occasion de parler à ce micro. Il propose à Louis XV de le nommer premier ministre. Et alors, c'est un peu une proposition pour la forme, car le régent n'imagine pas que le jeune roi lui dise non. Mais ce qui est amusant, c'est la façon dont réagit Louis XV. Au lieu de se montrer comme il est assez souvent en public, il se montre assez cordial, assez chaleureux, etc. Là, il lâche simplement du bout des lèvres un petit oui. Et ça suffit à nommer un premier ministre qui meurt de la gangrène très tôt, dès le mois d'août. Quant au régent lui-même, d'ailleurs, il va mourir à son tour d'apoplexie, disons les choses d'excès en tout genre. Il va mourir le 2 décembre de cette année 1723, ce qui fait que désormais, c'est le cousin du roi, c'est le duc de Bourbon, de la maison de Condé, hein, qui va exercer le premier ministère. Alors, le duc de Bourbon est un homme insinuant, très ambitieux. Il faut vous dire qu'il a derrière lui, et qui lui souffle dans les voiles, si je puis dire, sa maîtresse, Madame de Prie, qui est un personnage assez extraordinaire. Et le duc de Bourbon essaie d'extorquer au roi un certain nombre de grandes décisions. L'essentiel, c'est lui qui gère, bien entendu, avec une administration efficace. Je vais y venir dans un instant. Par exemple, le duc de Bourbon demande au roi s'il est d'accord pour rappeler le maréchal duc de Villeroy, justement, son ancien gouverneur, vous savez. Et Louis XV répond la même chose. Un seul petit mot, il faut tendre l'oreille pour entendre.
Oui.
Non, dit-il.
Ah, là, cette fois-ci, c'est non.
Et le gouverneur ne reviendra pas. Et il reviendra, mais beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que le premier soir où Villeroy se présente à Versailles, il pense que le roi va lui ouvrir les bras et tomber en larmes dans les siens. Et pas du tout. Louis XV affecte de ne même pas le remarquer. Et il fait exprès ce soir-là de parler à un grand nombre de courtisans pour bien montrer à Villeroy qu'il fait exprès de ne pas lui adresser la
mais
parole.
Mais on sait pourquoi il a refusé alors qu'il avait été si triste de son départ.
Je pense que, vous savez, il avait pris conscience de la mauvaise influence que Villeroy avait pu avoir sur lui. Et puis il lui en voulait d'avoir été tellement tatillon, tellement pénible pendant toute cette enfance qu'il a constamment rembruni. Et donc Louis XV est sans doute, ça c'est intéressant, c'est sans doute un être de rancune. C'est quelqu'un qui a la rancune tenace et qui, bien qu'il soit très discret, très poli, qu'il s'exprime peu, est capable de temps en temps d'une froide vengeance. Le roi tombe malade sur ses entrefaites et on se dit que sa succession n'est pas du tout assurée. Ça recommence, voyez. Et Madame de Prie, surtout, se dit que le pouvoir pourrait lui échapper. Alors vite, 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 il faut marier le roi. Dans un premier temps, on l'avait fiancé à la fille du roi d'Espagne, Philippe V. Philippe V était le petit-fils de Louis XIV. Tout ça reste dans la même famille. Hein. On l'avait marié à cette infante, on l'avait fiancé à cette infante d'Espagne. Sauf que le problème, c'est que cette triste Pépa, comme on la surnommait, était encore en âge de jouer à la poupée, vous voyez, elle était loin de pouvoir donner des enfants au roi. On se dit non, c'est pas possible. On la remet tranquillement avec ses poupées, ses bagages dans un carrosse, direction Madrid, la pauvre, et l'on va choisir une femme en âge de procréer pour ce jeune roi qui a 15 ans, là maintenant, on est en 1725. Alors, on fait toute une liste des princesses à marier en Europe, mais alors il y a tous les problèmes possibles. Soit ce sont des princesses russes, on se méfie des Russes, soit elles sont orthodoxes, soit elles sont protestantes, vous imaginez. sa majesté très chrétienne, roi catholique s'il en fut, qui épouserait une protestante. Pas possible. Bref, parmi les dizaines et dizaines de princesses dont on a fait la liste, il y en a une qui va rester, c'est la fille d'un roi de Pologne déchu et exilé, il s'appelle Stanislas Leszczynski, sa fille s'appelle Marie Leszczynska, c'est une petite famille qui vit très modestement à Wissembourg, vous savez, dans l'est du royaume, vraiment, ce sont des réfugiés qui vivent avec une petite pension que la France veut bien leur verser, et encore quand elle la leur verse, et voilà le messager du roi de France qui débarque à Wissembourg et qui annonce au pauvre Stanislas Leszczynski que sa fille est reine de France. Le mariage aura bientôt lieu à Fontainebleau. Ce sera l'occasion d'une grande fête et ce sera pour le roi comme un véritable déclic. À compter de ce mariage, Louis XV est adulte et il va pleinement exercer ses responsabilités royales.